Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Alban Le Prince.
Bonsoir et bienvenue dans Dimanche Politique sur RFI. Pendant 20 minutes, nous allons essayer de décrypter ensemble l'actualité politique de la semaine qui vient de passer, celle qui va commencer. Et avec moi ce soir, Erwan Lestrouan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. On va évidemment parler de François Bayrou, le premier ministre français nommé vendredi par Emmanuel Macron et son futur gouvernement. Mais avant cela, Erwan Lestrouan va s'intéresser à la situation à Mayotte, qui, on le rappelle, a été frappée hier par un cyclone d'une violence inouïe. Au moins 11 morts, il y en a certainement plusieurs centaines, voire un millier, dit le préfet. Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, est attendu sur place dans les prochaines heures. Question, est-ce à lui d'y aller? Est-ce que François Bayrou, le chef du gouvernement, n'aurait pas dû se rendre sur place ou au moins l'accompagner?
Oui, c'est vrai qu'à minima, ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut constituer un risque pour le nouveau Premier ministre, parce que les Français, d'une part, peuvent considérer qu'il n'a pas pris la mesure de la situation et ou qu'il n'a pas voulu s'éloigner du cœur du pouvoir. Et puis pour François Bayrou, c'est vrai qu'il aurait pu aussi endosser son habit de Premier ministre dans une séquence détachée des jeux de pouvoir politiciens en affichant la solidarité de l'État avec les Mahorais dans un contexte climatique de catastrophe. Ça, c'est un point important. Et puis aussi qu'il légitime un ministre sortant, qui finalement est démissionnaire, Bruno Retailleau. À titre de comparaison, lorsqu'il y avait eu en 2017 l'ouragan Irma, Emmanuel Macron s'était rendu à Saint-Martin. Et cet ouragan Irma, c'est un sujet dont les Français s'étaient emparés et préoccupés. 3 Français sur 4 étaient favorables à la mise en place d'une commission parlementaire pour faire le point sur les éventuels manquements de l'État face à cette catastrophe climatique.
Alors, vous le dites, ça donne peut-être l'impression que François Bayrou ne mesure réellement pas l'ampleur de cette catastrophe. L'Hexagone n'a annoncé l'envoi que de 270 militaires et pompiers à Mayotte. Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte, elle demande la déclaration de l'état d'urgence, le déploiement de l'armée pour protéger la population. Elle fait état de vols, de pillages, de raquettes. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Est-ce que c'est faisable de déclarer l'état d'urgence à Mayotte?
Alors, sans aller sur la question juridique, il est certain que les Français, dans ce contexte d'émoi national qui touche un territoire français, seront favorables à ce que l'ensemble des moyens que la France peut mettre à disposition de Mayotte soit mis à disposition. Ils seront extrêmement vigilants à ce devoir de solidarité de l'État, de la mise à disposition de ses moyens. Donc ça fait partie des points sur lesquels les Français vont être attentifs. Et ça faisait partie des points sur lesquels il l'avait été pour l'ouragan Irma. C'était la garantie que tous les moyens disponibles ont été mis en œuvre pour parer à l'urgence immédiate.
Et pourquoi ça ne l'a pas été là, à votre avis?
Alors, pour l'instant, on n'a encore pas de bilan concret sur le nombre de morts, sur l'ampleur de la catastrophe qu'on peut prévoir très importante. Mais on n'a pas encore de bilan concret. Donc, pour l'instant, peut-être qu'il reste un laps de temps dans lequel l'État a du mal à définir ses marges de manœuvre. Mais en tout cas, les Français vont y être attentifs.
Alors justement, cette actualité dramatique à Mayotte, elle percute l'agenda politique, si je puis dire. Parce que depuis vendredi et la nomination de François Bayrou comme Premier ministre, le gouvernement français, vous le disiez, est toujours démissionnaire. Est-ce que ça risque de retarder l'annonce de la composition du nouveau gouvernement ou pas du tout?
Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, l'agenda des consultations de François Bayrou à Matignon est d'ores et déjà bien rempli. Ça ne semble pas de nature à ralentir le calendrier de mise en œuvre, de formation d'un nouveau gouvernement. On verra ce que donnent les prochains échanges aussi, parce que c'est de la tenue des échanges que dépendent les ralliements éventuels.
François Bayrou a commencé ses consultations, on le disait, en vue de former son gouvernement. Hier, il a reçu les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, le premier président de la Cour des comptes aussi, pour ne citer que. La tâche est titanesque. Dès la passation de pouvoir, il a d'ailleurs tenu à se poser comme un rassembleur.
Nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. Je sais que les chances de difficulté sont beaucoup plus importantes que les chances de succès. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer. Et je pense que si on essaie, peut-être pourra-t-on trouver un chemin inédit. Et ce chemin, en tout cas, je sais de quoi il est marqué. Il est marqué de la volonté de réconciliation.
Réconciliation, essayer, ce sont ces mots. Demain, les choses sérieuses vont commencer. Il va recevoir les partis politiques par ordre d'importance numérique à l'Assemblée. C'est donc le Rassemblement national qui va ouvrir le bal. Le RN qui était jusqu'ici exclu des discussions comme la France insoumise qui sera reçue plus tard. Pensez-vous qu'ils arriveront à se faire entendre ?
Pour le RN, on peut imaginer que la question est moins de savoir s'ils arriveront à se faire entendre que s'ils arriveront à faire entendre aux Français combien ils souhaitent les défendre, et ils ont indiqué quelles étaient leurs lignes rouges en matière de soutien à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que pour le RN, par exemple, pour l'instant, ils font un parcours sans faute depuis les législatives. Ils ont une carte à jouer. C'est surtout qu'ils ont réussi à montrer avec le gouvernement Barnier qu'ils avaient réussi à obtenir des sacrifices de l'exécutif sur les remboursements médicaux, sur les tarifs de l'électricité, et que finalement, s'ils ont censuré le gouvernement Barnier, c'était vraiment parce qu'ils persévéraient dans leur volonté de geler la revalorisation des retraites. Donc le RN a réussi dans la séquence à s'ériger en défenseur du pouvoir d'achat. Ce qu'on voit dans les baromètres politiques aujourd'hui, c'est que l'ensemble des personnalités politiques nationales perdent en popularité. C'est une crise politique qui est destructrice en termes d'image pour l'ensemble de la classe politique. Mais dans ce contexte, le RN ne recule pas. Jordan Bardella, Marine Le Pen, ils ont plutôt tendance à stagner. Mais stagner dans la période actuelle, c'est déjà pas mal. Ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion et d'intention de vote pour 2027, c'est que Marine Le Pen a plutôt tendance à élargir sa base. Et ce qu'on peut se demander aussi, c'est non seulement est-ce qu'elle n'élargit pas sa base, tout en diminuant l'animosité des oppositions. Parce que s'il y avait une nouvelle législative dans les prochains mois, on peut imaginer que peut-être les gens iraient moins faire front républicain pour soutenir, alors qu'ils sont sympathisants ensemble, un député du NFP face au RN, étant donné les antagonismes profonds qu'on voit apparaître à l'issue des consultations. Donc on peut imaginer que voilà, le front républicain se dégraderait et en même temps le RN élargit sa base, alors que la France insoumise suit un chemin inverse. Elle est beaucoup plus dans une posture de radicalité face au gouvernement. Elle incarne une opposition profonde au projet du futur gouvernement de François Bayrou, ou du moins de ce qu'on peut en imaginer, en ne s'associant ni au projet, ni à la réflexion sur le contenu des projets qui vont être mis en œuvre. Ils sont sur un couloir quand même bien spécifique, et ils sont beaucoup plus loin du pouvoir que ne peut l'être le RN aujourd'hui dans les enquêtes d'intention de vote.
Mais est-ce que justement les électeurs du RN qui voient Marine Le Pen, Jordan Bardella comme entre guillemets une sorte de stabilité, est-ce qu'ils ne leur en ont pas voulu d'avoir voté cette censure ?
Non, parce que c'était tout à fait cohérent de la part de Marine Le Pen. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans les enquêtes post-vote de la motion de censure, qui est plutôt jugée comme une bonne chose, non seulement par la majorité des Français, mais en plus par les sympathisants du Rassemblement national, parce que le RN avait indiqué ses lignes rouges sur la question du pouvoir d'achat, qui est la préoccupation numéro un des Français. Donc ça fait complètement sens pour eux, ce refus du Rassemblement national de donner un blanc-seing au gouvernement. Et ça ne les rend évidemment, dans la perspective de 2027, pas comptables de la politique gouvernementale.
Le Rassemblement national qui joue la carte de l'apaisement, on l'a vu, on l'a entendu surtout sur RTL ce matin avec Louis Alliot, le premier vice-président du Rassemblement national. Il se montre plus mesuré sur François Bayrou qu'avec Michel Barnier.
Je pense que François Bayrou, par rapport à M. Barnier, a cette qualité-là, qu'il écoute, qu'il dialogue, même si nous ne partageons à 95% aucune de ses idées, il n'en demeure pas moins que c'est un républicain et un démocrate. Il a d'ailleurs mis en adéquation ce qu'il pensait avec ses actes, lui, puisqu'au moment de la présidentielle, il a apporté son parrainage symbolique à Marine Le Pen pour qu'elle puisse avoir ses parrainages. Sur ces considérations-là, je pense qu'il est quelqu'un qui, dans le spectre politique, est un peu à part.
Pas de censure, je cite, a priori aussi du Rassemblement national pour François Bayrou. Est-ce qu'on peut y croire ?
On peut vraisemblablement y croire tant que le gouvernement de François Bayrou ne franchit pas les lignes rouges auxquelles s'opposerait le RN. On l'avait vu avec la réforme des retraites par le passé. On l'avait vu à l'inverse avec la loi immigration. Le RN a quand même des fondamentaux sur lesquels il exprime des positions. Et si un projet gouvernemental venait à entrer en contradiction avec les attentes des Français et qui plus est de son électorat, nécessairement, le Rassemblement national aurait vocation à le censurer. Et c'est ça qui est profondément inquiétant dans la période actuelle, c'est qu'on ne voit pas comment ce gouvernement Bayrou ne recréerait pas les difficultés qu'a connues le gouvernement Barnier.
Mais alors justement, les enjeux sont nombreux, hein. La dette abyssale de la France, la crise agricole, la sécurité, l'immigration. La gauche, elle exige un changement de cap. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, le Parti Socialiste, était l'invité de France 3 aujourd'hui et il n'hésite pas à brandir cette menace d'une nouvelle censure.
Si la politique qui est conduite est une politique qui cède aux chimères de l'extrême droite, alors effectivement, il sera sanctionné. S'il continue, s'il prolonge simplement la politique d'Emmanuel Macron, alors il sera sanctionné aussi. Les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets.
Aucune motion de censure.
Et donc, le président de la République, en nommant François Bayrou, a peut-être fait le choix de la continuité. Si c'est le cas, alors effectivement, les mêmes sanctions interviendront.
Un changement de cap, c'est ce que souhaite Olivier Faure. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ?
Oui, c'est un vœu pieux, mais surtout, ça montre aussi combien, pour le Parti Socialiste, dans la période actuelle, on est face à une marge de manœuvre extrêmement réduite. Parce que d'un côté, il faut montrer que le PS est un parti de gouvernement, doit se démarquer de LFI, qui, au sein du NFP, est quand même le parti qui a l'image la plus clivante. Et en même temps, il ne faut pas se mettre hors jeu pour 2027 si on veut que la gauche accède au pouvoir. Parce qu'on voit bien que, vu le poids du PS, si la gauche accède au pouvoir en 2027, ça sera nécessairement dans une coalition. Et puis le risque au PS aussi, dans ce choix de ligne qui n'est pas tranché en interne, c'est de savoir sur quel pied danser. Parce que chez les sympathisants PS, parmi lesquels il y a eu des frondeurs entre 2012 et 2017 qui ont sapé le quinquennat de François Hollande, chez les sympathisants PS, il y en a la moitié qui ont une bonne opinion de François Ruffin, mais il y en a aussi la moitié qui ont une bonne opinion de Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe. Donc il va falloir savoir sur quel pied danser, avec une marge de manœuvre réduite et des aspirations peut-être des sympathisants qui divergent pas mal.
Et avec cette déclaration, justement, est-ce que Olivier Faure ne se range pas vers une gauche plus LFI ? Non ?
Si, probablement, parce que de toute façon, le PS a affirmé que les ministres, qu'il n'y aurait pas de ministre socialiste au gouvernement, donc ça placerait en porte-à-faux d'éventuelles personnalités encartées au parti qui rentreraient au gouvernement de François Bayrou, ça place le Parti Socialiste clairement dans l'opposition, d'où la question de la motion de censure, mais ça ne dit rien des aventures individuelles qu'on va peut-être pouvoir observer dans les prochains jours.
Alors l'homme qui cristallise la colère d'une grande partie de la gauche, ça reste Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur. Pourtant, on n'a pas vraiment l'impression qu'il va quitter le gouvernement. On le disait, il part à Mayotte, il est l'un des premiers à avoir été reçu par François Bayrou dès vendredi soir. Il a même posé ses conditions pour participer à son gouvernement. Ce serait une nouvelle loi immigration. Pour Boris Vallaud, chef des députés socialistes à l'Assemblée nationale, ce n'est pas du tout la priorité. Je vous propose de l'écouter, il était sur BFM ce midi.
Par ailleurs, ce que propose M. Retailleau, c'est ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il va modifier la Constitution ? Il n'a pas la majorité pour le faire. Arrêtons ces grands mensonges. On l'a légiféré ces dernières années, plus sur la question de l'immigration que sur le logement, que sur la transition écologique. Nous avons des urgences à servir.
Et ma question rejoint ce qu'on disait il y a quelques instants. Est-ce que la gauche peut, ou a même les moyens de s'imposer ?
Non, pas nécessairement dans le débat, d'autant plus que sur cette question de la loi immigration, les Français sont favorables à l'ensemble des mesures que propose Bruno Retailleau. On a une vraie droitisation de l'opinion sur cette question de durcissement du contrôle de l'immigration. Donc, de toute façon, le projet devrait être approuvé dans l'opinion. Et vraisemblablement, peut-être même pour certains points, par une majorité de sympathisants PS. Mais là où les choses sont plus dures pour les mesures liées à l'immigration, c'est pas nécessairement sur le soutien à ce qui est proposé. On l'avait vu avec la loi immigration à la fin de l'année 2023. C'est pour l'adoption à l'Assemblée nationale, où là, le jeu des soutiens pour arriver à 289 députés qui soutiennent la loi nécessite forcément d'intégrer les députés du Rassemblement national et les ciotistes pour arriver à la majorité. Et là, le procès en collusion avec le Rassemblement national peut être très important. Donc c'est pour ça aussi que le Parti Socialiste doit se placer dans une opposition résolue sur ces côtés-là. Et puis la question de l'adoption avec les voix du RN se posera nécessairement, vraisemblablement, sur ces mesures qui, quand bien même elles sont soutenues par l'opinion.
Le RN qui, justement, réclamait des mesures plus fortes au moment de la dernière loi immigration. Est-ce que là, il va être, entre guillemets, satisfait ?
Alors, il y a des enjeux de constitutionnalité derrière de nombreux points qui avaient été censurés. Donc, je pense que le débat sera un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, le RN va donner l'impression que les choses vont dans son sens, que le gouvernement valide ses propositions en les adoptant. Donc c'est vraiment tout l'enjeu pour le RN, c'est d'apparaître comme celui qui fixe l'agenda au gouvernement sur ces sujets, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration. Ça montre que le RN est un peu le faiseur de loi et peut mettre des lignes rouges. Alors, pas nécessairement en censurant le gouvernement, parce qu'il n'a pas la force à lui tout seul avec ses 125 députés, mais en tout cas peut constituer une vigie, et c'est ce positionnement qu'il a adopté et qui est crédité par ses sympathisants à la période actuelle.
Alors Bruno Retailleau, ça a été l'un des hommes qui a su se démarquer au sein du gouvernement Barnier. Grosse prise de guerre, on disait même. Est-ce que c'est un moyen pour Emmanuel Macron et François Bayrou de conserver une sorte de soutien de la part des Républicains ?
Oui, c'est vrai que ça peut être important dans la période actuelle, parce que François Bayrou, il a même moins de députés qui le soutiennent qu'il n'y avait de députés qui soutenaient Michel Barnier, sachant que Michel Barnier, ça permettait de faire l'alliage et de la majorité présidentielle et des LR, qui ne sont plus aujourd'hui à Matignon. Donc il faut nécessairement avoir une continuité avec ce segment politique. Maintenant, ça peut être Bruno Retailleau, ça peut être d'autres personnalités aussi, mais c'est vrai que Bruno Retailleau, c'est la figure qui a émergé du gouvernement Barnier en termes de notoriété, si on exclut Rachida Dati qui, elle, était déjà dans le jeu politique depuis plus longtemps. Mais c'est vrai que Bruno Retailleau, c'est une figure qui a émergé, qui était derrière Michel Barnier, le ministre le plus identifié.
D'autres noms commencent à circuler pour ce futur gouvernement. Celui de Gérald Darmanin, par exemple, qui lui était ministre de l'Intérieur avant Bruno Retailleau. Il ferait son retour, tout comme Elisabeth Borne, qui était encore première ministre au début de l'année. Elle est partie le 9 janvier 2024. C'est quoi la stratégie? Concrètement, on prend les mêmes et on recommence, c'est risqué un petit peu comme Paris.
Ce qui est le plus risqué, c'est déjà de donner le sentiment d'une continuité. Ça, c'est le risque majeur. C'est vrai que c'est le risque majeur pour ce gouvernement, c'est d'aller en contradiction avec ce que les Français attendent, c'est-à-dire que le gouvernement représente mieux la diversité des opinions, une rupture avec le macronisme, parce que les Français ont exprimé maintes et maintes fois, et dans les sondages d'opinion et dans les urnes, qui veulent tourner la page du macronisme. Là, nommer François Bayrou à Matignon, c'est tout sauf une alternance. Les Français voulaient voir le pouvoir changer de main, un changement de méthode. Résultat, aujourd'hui, bon, pas d'effet de souffle fort. Et puis, surtout, quand on reprend les vieilles recettes, alors même que les gens attendent du changement, ça peut donner le sentiment, et d'un, qu'ils ne sont pas entendus, et de deux, que le vivier de personnalité et le nouveau souffle possible pour le gouvernement sont peu important aujourd'hui. C'est le risque. Et puis Elisabeth Borne, à la différence d'anciens premiers ministres comme Édouard Philippe, comme Gabriel Attal, elle est très impopulaire du fait de la double séquence de la réforme des retraites, impopulaire sur le fond et sur la forme avec le 49-3 des bisbilles autour de la loi immigration. Elle représente cette séquence. Elle est peu soutenue dans l'opinion. Donc il y a vraiment ce faisceau de stress des Français autour de la composition du gouvernement et surtout du sentiment d'avoir été floué par rapport à leur vote des législatives.
Mais alors, on l'aura compris, hein, c'est sûrement pas demain qu'on aura un nouveau gouvernement. En revanche, demain, l'Assemblée nationale, les députés doivent se prononcer sur le projet de loi spécial pour assurer la continuité de l'État à partir du 1er janvier prochain. Il n'en reste pas moins qu'il n'y a toujours pas de budget pour 2025, qu'il va falloir écrire un texte, de préférence sans avoir recours au 49-3. Est-ce que dans les conditions actuelle, avec une telle crise politique, ça vous semble faisable? Il va falloir composer.
Vraisemblablement, le projet de loi devrait être voté parce que c'est une reconduction de 2024 pour 2025.
Mais pour le budget 2025?
Ça ne posera pas pour les discussions sur le contenu du budget 2025 et les multiples amendements qui ont été déposés par les oppositions. Les discussions vont être serrées. Il y a beaucoup d'amendements qu'il va falloir imposer. Et puis c'est vrai que c'est une manière de montrer pour chacune des forces politiques sa volonté de mettre en place des mesures bien traitantes pour les Français qui, eux, ont l'impression que de toute façon, ce budget leur demandera amènera peu d'économies et leur demandera de payer de plus en plus d'impôts.
Voilà, donc réponse dans les prochains jours. Quel gouvernement aurons-nous? Le retour de Gérald Darmanin, d'Elisabeth Borne? Peut-être l'arrivée de nouveaux profils? Nous verrons ça dans les prochains jours. Merci beaucoup Erwan Lestrohan. Je rappelle que vous êtes directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Merci à vous de nous avoir suivis sur RFI. Dans un instant, dans moins d'une minute, l'actualité Afrique.